France Inter, franceinter.com.
Bonjour, aujourd'hui à l'occasion du 20e anniversaire de sa disparition, une des figures les plus singulières de la vie politique française sous la 4e et la 5e République, Edgar Faure. Ce n'est pas la girouette qui tourne, c'est le vent. Edgar Faure. Deux mille ans d'histoire. C'est un trait de mon caractère, disait-il, que le goût des honneurs et l'attachement au titre. Pendant 40 ans, cette passion pour le pouvoir et les honneurs ont conduit Edgar Faure à être plusieurs fois ministre et même chef de gouvernement sous les 4e et 5e Républiques. À ceux qui lui reprochaient d'être une girouette, parce qu'il était inclassable et qu'il savait être opportuniste, Edgar Faure avait un jour répondu « Ce n'est pas la girouette qui tourne, c'est le vent ». Un de ces aphorismes qui faisait rire même ses adversaires, ou ses élèves de Sciences Po qui ont eu un jour à commenter une de ses formules les plus drôles et encore très actuelles, « L'immobilisme est en marche et rien ne pourra l'arrêter ». Mais si Edgar Faure ne se prenait pas au sérieux, il prenait en revanche très au sérieux tout ce qu'il a pu faire dans toutes ses fonctions et jusqu'à sa mort. France Inter, Claude Guillaumin, le 30 mars 1988.
Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. Edgar Faure est mort ce matin à l'hôpital Laennec à Paris. Il était âgé de 79 ans. Edgar Faure, c'est plus de 40 années de vie politique française. Avocat à 20 ans, député à 38, ministre à 41, président du conseil à 44. Il était aussi célèbre par son habileté politique que par sa verve, son esprit mordant et son sens de la formule. Tous ceux qui l'ont bien connu, ses amis comme ses adversaires, lui reconnaissaient une éloquence redoutable, une intelligence rapide, une culture quasi encyclopédique et une mémoire qui ne lui faisait jamais défaut. Le 20 septembre 1986, Edgar Faure répondait aux questions de Jean-Louis Caffier de Radio France Besançon et notamment à celle-ci. Que souhaitez-vous qu'il reste de vous et de votre carrière ?
Je voudrais laisser après moi une œuvre régionale, nationale, internationale et sans avoir la faiblesse de croire que mon nom y demeurera attaché. À ce moment-là, je serai éloigné de la vanité des choses humaines. Mais nous avons mille moyens de survivre dans l'utilité de notre survivant, dans l'affection des gens qui nous ont entourés, et puis enfin dans nos descendants.
Raymond Krakowicz, bonjour.
Bonjour.
Alors cette voix, ce cheveu sur la langue, beaucoup de Français s'en souviennent. Elles ont marqué pendant 40 ans notre vie politique. C'était la voix d'Edgar Faure, auquel vous venez de consacrer une biographie. Edgar Faure, le virtuose en politique. Alors virtuose d'ailleurs au point qu'on se souvient plus au fond de son habileté, de son ambition pour le pouvoir, que de ce qu'il y a fait. Est-ce que ce n'était qu'un virtuose et même une girouette, disait-on ?
Non, pas du tout. Je crois que cela est regrettable que ce côté virtuose prenne le pas sur le reste parce qu'il considérait qu'être habile, eh bien c'est normal. On ne reproche pas à un chirurgien d'être habile dans l'exercice de son art. Et lui-même estimait que l'habileté est un plus pour sa fonction. Mais il avait des convictions et il a passé sa vie, on peut le dire, à tenter de les réaliser.
Alors c'était aussi un homme, à vous lire, extrêmement brillant. Et cela avant même de faire de la politique, ce qu'il a commencé à faire assez tard, et d'abord par exemple dans sa carrière d'avocat. Il devient avocat en 1927, c'est-à-dire qu'il a 19 ans, il n'est même pas majeur, et il est le plus jeune avocat du barreau de Paris, je crois.
Oui, il plaisantait d'ailleurs, à l'époque la majorité était à 21 ans, il disait « Je n'ai pas le droit de gérer mes propres affaires, mais en revanche, en tant qu'avocat, je peux gérer les affaires même les plus importantes de mes clients. »
Alors cette carrière d'avocat, il va la poursuivre longtemps, il a eu le bac à 15 ans, il faut le rappeler aussi. Pour ce qui concerne les idées, en fait, il va s'en tenir à l'écart, les idées, la politique, il va s'en tenir à l'écart pendant très longtemps, à une exception près, vous évoquez un flirt assez peu poussé et assez bref avec l'extrême l'extrême droite, Raymond Krakowicz.
Oui, c'est lui-même qui l'a reconnu. Alors que beaucoup d'hommes politiques, lorsque ça a été le cas, ont essayé de faire oublier cela ensuite, eh bien lui avait l'honnêteté, et eu l'honnêteté dans ses mémoires, de citer ce flirt qui n'a duré que quelques mois. Et ensuite, il s'est tenu à l'écart de la politique. Dans les années d'avant-hier, les choses étaient très marquées entre la gauche et la droite. Et lui-même, qui était plutôt un homme de centre, un homme de compromis, un homme d'idées, eh bien avait du mal à se situer dans ce débat.
Il préfère à la politique, il préfère écrire beaucoup de choses en dehors de son métier d'avocat. Il écrit une thèse sur le pétrole dans la paix et dans la guerre. C'est vraiment, il a sa curiosité le porte partout. Et puis alors surtout, ce qui m'a encore plus étonné, c'est des romans policiers. Il écrivit des romans policiers sous un pseudonyme qui était assez drôle, Edgar Sandet, car il n'y avait pas de D comme c'est l'usage à la fin de son prénom Edgar.
Exactement, il a écrit à cette époque trois romans policiers qui sont tous les trois très brillants. Il aurait pu devenir un maître du genre s'il y avait consacré l'essentiel de son activité, mais ce n'était qu'un dérivatif. Alors que sa thèse sur le pétrole était remarquablement pensée, puisqu'elle paraît en 1939, à la veille de la guerre, où les problèmes d'approvisionnement pétrolier vont jouer un grand rôle. Il se demande par exemple si par rapport à un neutre, on peut agir pour s'assurer de ses débouchés pétroliers. Ce sera le cas que les Français, les Anglais auront à résoudre en 1940 avec le pétrole de Bakou de l'URSS, alors que l'URSS a eu un accord avec l'Allemagne à l'époque.
Et au moment où la guerre a commencé, Raymond Krakowicz, c'est ça qui va le conduire à la politique. D'abord parce qu'il se rend en Afrique du Nord. Je crois que c'était tout simplement pour protéger sa femme qui, étant juive, évidemment courait des risques en restant en France.
Il y avait de cela. Il était incontestablement opposé à la collaboration, même s'il n'a pas été résistant. Il n'a d'ailleurs pas prétendu. Et il est parti en Afrique du Nord en 1942. Et en 1943, à Alger, il se trouve avoir des amis bien placés au Comité français de libération nationale, Louis Jox en particulier, qui est le secrétaire général.
C'est une espèce de gouvernement provisoire.
C'est ça, Alger, de Gaulle. Et Louis Jox, secrétaire général de ce gouvernement provisoire, le prend comme adjoint.
Autre chose qui l'a marqué, là nous sommes au lendemain de la guerre, juste après la libération, c'est qu'il est procureur général adjoint au tribunal de Nuremberg.
Oui, effectivement, De Gaulle, qui ne le connaissait pas particulièrement à l'époque, mais qui avait tout de même remarqué son action auprès de lui à Alger, le nomme procureur adjoint au procès de Nuremberg, qui va être un procès qui va rester ensuite dans l'histoire comme un procès fondateur. Eh bien, Edgar Faure va y participer pendant un an pratiquement, et il va assurer une partie de sa réputation dans ce procès où il aura des positions à la fois modérées et de fond.
Et c'est à ce moment-là qu'il entre vraiment en politique, en 1946, il hésite un peu entre plusieurs partis, il choisit finalement le parti radical, celui de son ami Pierre Mendès-France. Alors il est candidat, il a échoué à deux reprises aux deux premières élections, mais en 1946, comme il y en a eu beaucoup cette année-là. Il est élu donc en Franche-Comté, où il n'avait jamais mis les pieds, et où il arrive d'ailleurs en disant, vous le citez, Raymond Krakowicz, « Je suis franc-comtois de naissance depuis tout à l'heure ». C'était assez drôle.
Oui, ça fait beaucoup rire. C'est au moment où il est élu, il est tellement ravi d'être élu, qu'il sort cette boutade, qui est une boutade de plus par rapport à toutes celles qu'il pouvait claironner. Mais je crois que ce qu'il faut remarquer, c'est qu'il est élu à un âge qui n'est pas particulièrement jeune. Il a 38 ans, mais devenant député en 1946, deux ans après, il entre au gouvernement et trois ans après encore, il devient président du Conseil. Là, c'est une ascension d'une rapidité extraordinaire.
Effectivement, en 1952, président du Conseil, on ne disait pas, c'était chef du gouvernement, mais on ne disait pas à l'époque Premier ministre, mais président du Conseil. Donc, en 1952, à la tête d'un gouvernement pléthorique de 40 ministres et secrétaires d'État.
Et après une nuit d'insomnie, M. Edgar Faure présentait sur les marches de l'Élysée au président de la République son ministère, le 16e depuis la Libération.
Je suis heureux de cette occasion que nous avons de faire un peu connaissance, parce que beaucoup d'entre vous ne me connaissent pas. Me voilà donc aujourd'hui comme président du Conseil d'un parti qui est considéré comme le plus homogène, c'est-à-dire le gouvernement. Le gouvernement comptant en effet 40 membres. On m'a d'ailleurs dit que vous avez pris trop de ministres. Mais c'est une critique qui a déjà été faite. En 1917, Clémenceau a scandalisé parce qu'il a fait un ministère de 24 membres. Et Léon Blum qui a fait un ministère de 36 en 1936. Et vous remarquerez que je n'ai fait qu'un ministère de 40, bien que nous soyons en 52.
L'humour, Raymond Krakowicz, c'est vraiment un trait de caractère d'Edgar Faure très connu et qui l'avait rendu très sympathique à tout le monde.
Oui, tout à fait. Dans sa région d'adoption, la Franche-Comté, on disait, ce gars-là, il est cousu de parole, tellement il était brillant. Et il disait, par exemple, en ce qui concerne le centre, lui-même se sentait plutôt centriste, mais il a dit, lorsqu'il y a eu la bipolarisation, eh bien, le centre a le droit de vivre à condition de faire le mort. Mmh. C'était une de ses plaisanteries parmi d'autres. Il disait également, ne dites jamais du mal de vous, on finirait par vous croire. Et il était ministre de l'Agriculture, il disait, les villes étouffent quand les campagne ne respire plus. Ouais. Voilà.
Alors il a dit justement en 52, enfin un peu plus tard parce que son gouvernement était très court, il a dit mon gouvernement dura 40 jours, compta 40 ministres et me fit perdre 4 kilos. Alors c'est vrai que ce gouvernement de 52, dont il prend la tête en 52, est très bref. En revanche, le plus important, c'est celui dont il va prendre la tête deux ans plus tard, en 1955. Et là, ça va durer un an dans des conditions extrêmement difficiles, il faut le rappeler, Raymond Krakowicz.
Oui, il a eu beaucoup de tâches difficiles à accomplir durant cette année 1955, la principale étant celle posée par le Maroc, parce qu'il y avait des insurrections de plus en plus importantes au Maroc à la suite d'une déposition effectuée par un gouvernement précédent du sultan du Maroc, Mohamed V, qui avait été envoyé à Madagascar, contre l'avis d'ailleurs du gouvernement de Paris, mais qui avait endossé l'opération. Et ensuite de cela, il y a le nouveau sultan était quelqu'un qui n'avait aucune crédibilité, et des attentats de plus en plus importants, des troupes se produisaient, et Edgar Faure a été chargé de mettre fin à cela. Alors c'était très difficile, parce que personne ne voulait entendre parler d'un retour de l'ancien sultan sur le trône, on considère que la France serait désavouée. Lui était persuadé que c'est ce qu'il fallait faire, mais dans sa majorité, beaucoup n'étaient pas de cet avis. Il a dû biaiser pendant un certain nombre de mois, mais finalement, il est parvenu à son résultat et cela a permis de mettre fin aux troubles. Ces troubles qui commençaient d'ailleurs à intervenir en Algérie et au moins au Maroc, cela était terminé.
Il annonce l'indépendance, c'est quand même courageux. À l'époque, il faut rappeler qu'il y avait des groupes de pression, évidemment, qui étaient très hostiles à cette indépendance du Maroc. C'est lui qui en est l'artisan, de même qu'un an avant lui, Pierre Mendès France avait annoncé déjà, non pas l'indépendance, mais l'autonomie de la Tunisie. En revanche, aussi bien Mendès France que lui-même se montreront beaucoup plus fermes en ce qui concerne l'Algérie.
Alors, le problème ne se posait pas de la même façon. L'Algérie était considérée comme un département français et personne à l'époque, en 1955, ne demandait l'indépendance de l'Algérie. Alors, Diarfour dira d'ailleurs, pour la Tunisie, il avait fallu Mendès France, pour le Maroc, il a fallu moi-même et pour l'Algérie, il faudra De Gaulle.
Et il avait bien vu les choses.
De Gaulle sera de nature à faire face au prix de 8 années de guerre à ce problème considérable.
On dit aussi, il l'a souvent dit lui-même, il a lancé la construction européenne en 1955, on est juste à la veille de la mise en place du marché commun.
Oui, là je serai assez nuancé, j'ai beaucoup d'admiration pour Edgar Faure et si j'ai écrit ce livre, c'est parce que j'ai trouvé que c'était un homme remarquable, mais sur le plan de la construction européenne, il n'était pas en fait en pointe, comme il a essayé de le faire croire avec un petit peu de suffisance, c'était les pays du Benelux, la Belgique, l'Hollande et le Luxembourg, qui étaient les plus en pointe, et la France et l'Allemagne ont suivi et ont créé le marché commun l'année suivante dans le gouvernement d'Imollet, mais Edgar Faure, à l'époque, était, disons, un Européen tiède.
Chose très audacieuse aussi, nous sommes en période de guerre froide, le monde est divisé en deux blocs, et Edgar Faure, dès cette époque-là, alors qu'il n'a aucune sympathie pour le communisme, et inversement, les communistes français le lui rendent bien, mais préconise un rapprochement, un dégel des relations avec l'Union soviétique, et cela en 1955.
Absolument, il était tout à fait pour une coexistence pacifique, existante qui était facilitée, il faut le dire, en 1955 parce que Staline était mort deux ans auparavant, mais il insiste beaucoup là-dessus et il va avoir l'honneur d'être le seul chef de gouvernement français à participer à une conférence des quatre grands, les États-Unis, l'Union soviétique, la Grande-Bretagne et la France. C'est la seule durant tout le XXe siècle qui se soit tenue à Genève et Edgar Faure, en tant que président du Conseil, représentait la France.
Parlez russe couramment. Plus tard d'ailleurs, le général de Gaulle l'enverra pour préparer la reconnaissance de la Chine par la France, hein, c'est dire à quel point effectivement on comptait sur lui. Alors, ce gouvernement de 1955 a été plus long que les autres, peut-être plus long aussi que beaucoup de 4e République, parce que sous la 4e, il y en a eu plus d'une vingtaine en l'espace de 12 ans, ça a duré un an, jusqu'à ce qu'il dissolve l'Assemblée nationale en 1955, ce qui était considéré comme un véritable coup de force, on n'a jamais fait ça depuis 1877, on a accusé Edgar Faure de faire preuve d'un autoritarisme épouvantable, il va même d'ailleurs se couper de son ami Mendès France et de son propre parti, le parti radical qui va le chasser de ses rangs. Et puis, il va même disparaître de la politique ou presque pendant une dizaine d'années, une très longue longue traversée du désert jusqu'à son retour en 1966, quand Edgar Faure donc devient ministre de l'Agriculture après la réélection du général de Gaulle à la présidentielle de 1965.
Le général de Gaulle se succédant à lui-même, la cérémonie de passation des pouvoirs s'est réduite à ce petit quelque chose qu'avait annoncé le chef de l'État. Le nouveau septennat a commencé par un remaniement ministériel relativement important. Parmi les nouveaux, M. Edgar Faure, à propos duquel il faut noter en cette période cruciale pour le Vietnam qu'il fut un des quatre grands à Genève et également l'envoyé du général de Gaulle à Pékin avant la reprise des relations diplomatiques.
Une longue, longue, longue attente, une attente de je ne sais quoi, une longue, longue attente lente d'un je ne sais quoi qui serait toi. Une soirée pour une romance, un sapin aigu comme un aveu, une mélopée qui recommence, un lac qui s'endort comme l'on veut.
En dehors de son titre, Une longue attente, beaucoup de gens vont être surpris d'entendre cette chanson de Reggiani, Raymond Krakowicz, dans une émission consacrée à Edgar Faure, mais ce n'est pas un hasard.
Non, Edgar Faure avait énormément de talent, on a parlé tout à l'heure de ses romans policiers, mais il a composé des chansons et la musique et les paroles.
Dont celle-ci.
D'ailleurs, au piano, dont celle-ci qu'il a demandé à Serge Reggiani de chanter. Il y en a 7 ou 8 autres qui sont de bonne facture également. Edgar Faure avait, on peut dire, tous les talents. Il savait également composer des vers, il savait écrire, il est devenu académicien. Il avait effectivement énormément de capacités.
Et des talents qui sont souvent moins connus que ceux dont il a fait preuve comme au gouvernement, comme chef du gouvernement, président du Conseil sous la 4e République, ministre de la 4e République, mais aussi sous la 5e République. Le général de Gaulle fait appel à lui en 66, on l'a entendu, à l'agriculture. Et puis alors surtout, ça c'est quand même, ça doit être un moment très important de sa carrière, Raymond Krakowicz, il devient ministre de l'Éducation nationale au lendemain des événements de mai 68. Ça, c'était un poste quand même sacrément délicat.
Oui, je crois que personne n'avait envie d'occuper ses fonctions. La France, en particulier le milieu estudiantin, était paralysé. Les examens, la rentrée suivante, tout cela paraissait extrêmement aléatoire. Et Edgar Faure a pris le taureau par les cornes. Il a réuni durant tout l'été des centaines et des centaines de personnes. Il a dialogué avec tout le monde parce que c'était avant tout un homme de dialogue. Il a réussi à faire en sorte que la rentrée se fasse bien, qu'il y ait une loi sur l'université, sur la pluridisciplinarité, sur la démocratisation, sur le développement des universités, qui est tout à fait remarquable. À titre d'exemple, il a créé à Vincennes, durant l'été 1968, une faculté à partir de rien, sur un terrain qui appartenait à la ville de Paris. Le conseil municipal de Paris était en vacances, il n'avait pas de permis de construire, il a fait construire tout de même. C'est quelque chose que l'on ne verrait plus aujourd'hui.
Et une loi d'orientation qui a été votée à l'unanimité, ce qui est absolument quasiment unique dans les annales de la 5e République. Alors il était apprécié, vous l'avez dit, pour ses talents de conciliateur, mais aussi, et malgré sa réputation d'opportuniste, pour la très haute idée qu'Edgar Faure se faisait de la politique.
La morale pour un homme politique, c'est la conviction. Il y a une chose qui me frappe souvent, c'est que les hommes politiques, on ne les traite pas toujours très bien, on les dénigre souvent. On pense qu'ils sont mus uniquement par l'ambition, il y a de l'ambition d'ailleurs, par la vanité, la griserie des honneurs, l'arrivisme, le carriérisme, et bien sûr, il y a des moments de prestige, d'honneur, de pouvoir, mais ces moments, ils sont rares, et le plus souvent, ils sont courts. Il y a les moments de doute, les heures d'angoisse et les nuits d'angoisse, où l'on sait que les décisions qu'on va prendre auront une très grande influence. Et non seulement on peut se tromper, mais on peut surtout être mal compris, rencontrer des interprétations malveillantes. Il y a les attaques, les injures, il y a la calomnie. Je sais ce dont je parle. Alors, je vais vous dire une chose. Pour faire ce métier, il faut y croire. Et c'est là qu'intervient le rôle de la conviction. Il faut croire à ce qu'on fait.
Il faut croire à ce qu'on fait, disait Edgar Faure en 1966. Ça cadre mal avec l'idée que l'on se fait de lui, d'un homme sans conviction.
Oui, je crois que le fait d'être brillant amène souvent à penser que l'on n'a pas de conviction parce que l'on parle facilement. Mais ce n'était pas du tout le cas d'Edgar Faure, qui disait par exemple qu'il était pour une politique internationale d'ouverture, une politique culturel de passion. On l'a vu avec ce qu'il a fait au ministère de l'Éducation nationale, et aussi pour une politique économique de raison. Je crois que l'on peut insister quelque peu sur ce plan, parce que la majeure partie de ses participations gouvernementales ont été en tant que ministre des Finances, et il avait des idées très arrêtées là-dessus. Il était pour une expansion dans la stabilité qu'il a mise en œuvre avec succès lorsqu'il était ministre.
Mais ça a des convictions qu'il a pu partager, défendre dans des partis politiques tellement différents qu'on n'arrivait pas à le classer. Quand on lui dit qu'il change de côté. Vous écrivez, Raymond Krakowicz, Edgar Faure n'a pas changé de côté, il n'a pas de côté. Et c'est vrai qu'on l'a vu au Parti radical, à la tête du Parti radical, mais on l'a vu dans des tas d'autres partis, et même tenté, dit-on à la fin, par le Parti socialiste après l'arrivée de François Mitterrand au pouvoir.
Oui, il se considérait comme avant tout un pragmatique, comme un dogmatique de l'antidogmatisme. Il se considérait donc n'étant ni de gauche ni de droite, et il disait, comme le cardinal de Retz, je crois, quand on ne veut pas changer d'idée, il faut savoir changer de parti.
Alors cela dit, c'est un homme de conviction, dites-vous, un homme aussi de conciliation. Il détestait les conflits, et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a fait appel à lui dès qu'il y avait des problèmes délicats. On évoquait évidemment mai 68 à l'université. C'est ça sa grande qualité.
Oui, son talent d'avocat ressortait particulièrement lorsqu'il avait à concilier des contraires, lorsqu'il avait à faire face à des problèmes difficiles. Il disait même, lorsqu'un problème est difficile, il faut l'embrouiller jusqu'à ce qu'on puisse le résoudre ensuite. Et il disait par exemple, alors, qu'il faut répudier la méthode du tout ou rien qui réussit rarement et la politique du défi qui ne réussit jamais. Mais il ajoutait, quand on s'est placé volontairement dans les conditions d'une épreuve de force, il est impardonnable de donner des signes de faiblesse.
Alors cela dit, c'est aussi un homme qui aimait les honneurs. Hein. Après avoir été encore ministre d'Affaires sociales, là encore un poste délicat, c'était en 72 je crois, il est président de l'Assemblée nationale de 73 au 78, et puis c'est l'Académie française, président aussi de la mission pour le bicentenaire, il aimait ça, hein.
Absolument, il aime beaucoup les honneurs, même s'il faut remarquer qu'il n'a jamais eu la Légion d'honneur. C'était un petit clin d'œil sur ce plan.
Je crois que les hommes politiques en fonction, c'est difficile, évidemment, ils ne la reçoivent pas quand ils sont députés, comme il l'a été tout le temps pratiquement, ou sénateur.
Oui. Non, il ne la reçoit pas quand ils sont ministres, et pas la recevoir quand ils sont députés, mais comme il ne l'avait pas eu quand il était très jeune, ensuite il trouvait qu'il était au-dessus de cela.
Oh, il a quand même été agrégé, je ne sais pas à quel âge il a passé son agrégation.
Oui, alors
lui
ça
qui
c'était
était premier
assez...
partout, il a été dernier. Enfin, pas dernier, mais en date en tout cas.
Oui, c'était assez extraordinaire. À 53 ans, de tenter l'agrégation de droit, qui est une épreuve difficile. Quand on est un ancien chef du gouvernement, le risque de l'échec serait quand même considérable.
Et cela sans jamais perdre le sens de l'humour dont il faisait encore preuve 3 ans avant sa mort au micro de L'Oreille en coin en 1985, quand on lui rappelait tous les partis auxquels il avait adhéré.
Moi, personnellement, vous savez, je me suis toujours senti bien partout, au RPR comme au MRP, chez les radicaux comme à l'UDF. Et je suis certain qu'en tant qu'ancien gaulliste de gauche, eh bien, je me sentirais très bien au Parti socialiste. Je vous remercie.
Simple remarque, je suis l'un des très rares hommes politiques qui se trouve au point où j'en suis de ma carrière, dans le même parti où j'étais au début. Naturellement, plusieurs fois, il m'a quitté, mais il m'est revenu. Et j'en suis président d'honneur.
Je voudrais vous demander une chose. Est-ce que vous auriez la gentillesse de nous interpréter ce que vous voulez ?
Il y a un problème, n'est-ce pas ? Je ne suis pas pianiste, je ne suis pas virtuose, je n'utilise le piano que pour composer. Ben, si vous voulez, je suis en train d'étudier une mélodie, alors je vais vous la jouer avec un doigt, je voudrais avoir votre impression. Cœurs aimantés ne font pas toujours le même songe. Deux vérités peuvent composer un vrai mensonge. Le sage pense qu'amour perdu jamais ne recommence. Le mage sait que le futur fabrique son passé.
Merci.
Le sage, le mage Edgar Faure au micro de L'Oreille en coin il y a 20 ans, 1985. Il est mort 3 ans plus tard. Qu'est-ce qu'il a laissé derrière lui, Raymond Krakowicz ?
Eh bien,
Parce que beaucoup de jeunes aujourd'hui, c'est un nom qui ne dit rien aux jeunes d'aujourd'hui.
Non, c'est un petit peu dommage parce qu'il a réussi une œuvre importante sur le plan politique en particulier. Et il citait le Parti socialiste tout à l'heure. Je crois que l'on pourrait dire qu'il était un homme partisan d'un socialisme réduit aux acquis. C'est-à-dire qu'il considérait que un gâteau tel qu'il est, il ne faut pas changer sa répartition parce que prendre aux riches pour donner aux pauvres, ça ne réussit pas, ça démobilise. En revanche, l'accroissement du gâteau, bateau, cet accroissement-là, lui, doit être beaucoup mieux partagé de façon à réduire les inégalités. C'était une de ses idées. Il a créé ce qu'on appelait le nouveau contrat social et c'est quelque chose qui reste, je crois, toujours d'actualité.
Ce qui l'est moins, c'est vraiment l'humour dont il fait preuve. Bon, il y a quelques figures aujourd'hui à l'Assemblée nationale, je pense à Santini, évidemment, qui sont assez drôles. Mais voilà un homme qui brillait en tout, qui était capable d'être drôle, ce qui en politique quand même est une qualité assez rare comme la conciliation. C'est quand même une belle leçon, au fond, pour les hommes politiques d'aujourd'hui, le parcours et l'humour d'Edgar Faure.
Oui, et il pratiquait cet humour à un niveau très élevé qu'on ne retrouverait pas effectivement aujourd'hui en politique. Et le général de Gaulle lui-même y était sensible et il a écrit dans ses mémoires qu'à l'éducation nationale, il avait mis un grand ministre. Et de Gaulle n'était pas friand d'expressions de ce genre. Il a beaucoup apprécié Edgar Faure. Il l'a d'ailleurs félicité pour les ouvrages qu'Edgar Faure lui a envoyés. Edgar Faure avait écrit des ouvrages sur Turgot, sur Loos et aussi un livre « L'âme du combat » où il exposait sa philosophie de la vie et de la politique. Et le général de Gaulle lui en était reconnaissant.
Edgar Faure, le virtuose de la politique, c'est le titre de la biographie que vous venez de lui consacrer aux éditions Economica. À consulter aussi le site de l'association Edgar Faure qui a pour but de perpétuer la mémoire et les œuvres du président du Conseil en France et à travers le monde. Et ce site, c'est www.edgarfaure.fr. Vous avez pu entendre deux archives pâtées de 1952 et 1966, disponibles en DVD chez Montparnasse Vidéo, dans la collection Le Journal de votre année. Vous pouvez retrouver ces références par téléphone au 3230, 34 centimes la minute, ou sur le site franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire, la technique Philippe Duclos et Sandrine Laurent, documentation et archivina Claire Destacan, Claire Tesser, Amélie Briand-Lejeune, Sandra Escamez et Catherine Louis, une réalisation de Anne Kobilac.